Escalade. La Méridienne.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 24 avril 2024 et je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé le 24 avril 1915. Puisque samedi 24 avril 1915, à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman, 600 notables arméniens sont assassinés sur ordre du gouvernement. C'est le début d'un génocide, il va faire environ 1,2 à 1,5 million de victimes dans la population arménienne de l'Empire turc. Au premier siècle de son existence, l'Empire ottoman y comptait encore une majorité de chrétiens. En Anatolie, au cœur de la Turquie actuelle, les chrétiens représentaient d'ailleurs 30 à 40% de la population. Il jouait un grand rôle dans le commerce et l'administration et leur influence s'étendait au sérail, c'est-à-dire le palais du sultan. Ses protégés, ou dhimmis en arabe, étaient du fait de ce statut de subordination soumis à de lourds impôts. Ils avaient l'interdiction de porter les armes et de posséder un cheval, ce qui les mettait dans l'incapacité de se défendre. Alors les premiers sultans, souvent nés d'une mère chrétienne, témoignaient néanmoins d'une relative bienveillance à l'égard des chrétiens grecs et arméniens. Ces derniers étaient surtout établis dans l'ancien royaume d'Arménie au pied du Caucase, premier royaume de l'histoire à s'être rallié au christianisme. Ils étaient majoritaires aussi en Cilicie, une province du sud-ouest de l'Asie mineure que l'on appelait parfois « Petite Arménie ». L'Empire ottoman comptait environ 2 millions d'Arméniens à la fin du XIXe siècle sur une population totale de 36 millions d'habitants. C'est alors que les Arméniens vont subir d'importantes persécutions, préfigurant le génocide. En effet, malgré une tentative de modernisation par le haut dans la période du Tanzimat, de 1839 à 1876, l'Empire ottoman entre dans une décadence accélérée. Le sultan Abdulhamid II attise alors les haines religieuses pour consolider son pouvoir. Entre 1894 et 1896, comme les Arméniens réclament des réformes et une modernisation des institutions, le sultan en fait massacrer 200 000 à 250 000. À Constantinople même, la violence se déchaîne contre les Arméniens du Grand Bazar, tués à coups de bâton. 1 million d'Arméniens sont dépouillés de leurs biens et quelques milliers convertis de force. Des centaines d'églises sont brûlées ou transformées en mosquées. Rien qu'en juin 1896, dans la région de Van, au cœur de l'Arménie historique, pas moins de 350 villages sont rayés de la carte. Ces massacres planifiés ont déjà un avant-goût de génocide. Mais le sultan fait le maximum pour dissimuler son forfait et paie la presse européenne pour qu'elle fasse silence sur le massacre. Abdulhamid II joue par ailleurs la carte du chef spirituel de tous les musulmans en sa qualité de calife. Il fait ainsi construire le chemin de fer du Hedjaz pour faciliter les pèlerinages à la Mecque. Il se rapproche aussi de l'Allemagne de Guillaume II. Malgré ses efforts, il ne peut empêcher l'insurrection des jeunes turcs. Ces jeunes officiers, à l'origine du sentiment national turc, lui reprochent de livrer l'Empire aux appétits étrangers et de montrer trop de complaisance pour les Arabes. Le 27 avril 1909, les jeunes Turcs installent sur le trône un nouveau sultan, Mohamed V, sous l'étroite surveillance d'un comité Union et Progrès dirigé par Enver Pacha. Soucieux de créer une nation turque racialement homogène, il multiplie les actions contre les Arméniens d'Asie mineure dès leur prise de pouvoir. On compte ainsi 20 000 à 30 000 morts à Adana le 1er avril 1909. Les jeunes Turcs lancent des campagnes de boycott des commerces tenus par des Grecs, des Juifs ou des Arméniens, en s'appuyant sur le ressentiment et la haine des musulmans turcs refoulés des Balkans. Ils réécrivent l'histoire en occultant la période ottomane trop peu turque à leur goût, et en rattachant la race turque aux Mongols de Gengis Khan, aux Huns d'Attila, voire même aux Hittites de la Haute Antiquité. Le 1er novembre 1914, changement, l'Empire ottoman entre dans la Grande Guerre aux côtés des puissances centrales, les empires allemands et austro-hongrois, contre la Russie et les occidentaux. Les Turcs tentent de soulever en leur faveur les Arméniens de Russie. Mal leur en prend. Bien qu'en nombre supérieur, ils sont défaits par les Russes à Sarikamish le 29 décembre 1914. L'Empire ottoman est envahi. L'armée turque perd 100 000 hommes. Dans l'hiver 1914, elle bat en retraite et, exaspérée, multiplie les violences à l'égard des chrétiens dans les territoires qu'elle traverse, qu'ils soient arméniens, assyro-chaldéens ou pontiques, c'est-à-dire grecs orthodoxes de la province du Pont sur la mer Noire. Par ailleurs, Enver Pacha ordonne dès février 1915 que les 120 000 soldats arméniens de l'armée ottomane soient retirés du front, désarmés et affectés à l'arrière à des bataillons de travail. Dans les semaines qui vont suivre, ils vont être systématiquement exécutés. Dans ces conditions, les Russes n'ont guère de mal à retourner en leur faveur les Arméniens, mais aussi les Assyro-Chaldéens des provinces orientales de la Turquie. Le 7 avril 1915, la ville de Van, à l'est de la Turquie, se soulève et proclame un gouvernement arménien autonome. Dans le même temps, à l'initiative du Lord britannique de l'Amirauté, un certain Winston Churchill que vous devez connaître, les Français et les Britanniques préparent un débarquement dans le détroit des Dardanelles en vue de se saisir de Constantinople. Les jeunes Turcs profitent des troupes pour accomplir leur dessein d'éliminer la totalité des Arméniens et des Assyro-Chaldéens de l'Asie mineure, une région qu'ils considèrent comme le foyer national exclusif du peuple turc. Ils procèdent avec méthode et brutalité. Le ministre de l'Intérieur, Talat Pacha, ordonne l'assassinat des élites arméniennes de la capitale. C'est ensuite le tour des nombreuses populations arméniennes des sept provinces orientales. Dans un premier temps, les agents du gouvernement rassemblent les hommes de moins de 20 ans et de plus de 47 ans et les éloignent de leur région natale pour leur faire accomplir des travaux épuisants. Beaucoup d'hommes sont aussi tués sur place. Dans une première étape, l'objectif officiel est de déplacer les Arméniens et autres chrétiens des provinces orientales d'Anatolie vers Alep et des camps installés dans le désert de Syrie. La loi provisoire de déportation du 27 mai 1915 fixe le cadre réglementaire de la déportation des survivants ainsi que de la spoliation des victimes. Dans les villages qui ont été quelques semaines plus tôt privés de leurs notables et de leurs jeunes gens, militaires et gendarmes ont toute facilité à réunir les femmes et les enfants. Ces malheureux sont réunis en longs convois et déportés vers Deir ez-Zor, sur l'Euphrate, une région désertique de la Syrie ottomane. Les marches se déroulent sous le soleil de l'été, dans des conditions épouvantables, sans vivres et sans eau. Elles débouchent en général sur une mort rapide. Survivent toutefois une centaine de milliers de jeunes femmes ou d'adolescentes. Celles-là sont enlevées par les Turcs ou les Kurdes pour être vendues comme esclaves ou alors converties de force à l'islam, voire mariées. En septembre, après les habitants des provinces orientales, vient le tour des Arméniens de Cilicie. Ils sont aussi convoyés vers le désert de Syrie, dans des wagons à bestiaux, puis transférés dans des camps de concentration en zone désertique, où ils ne tardent pas à succomber à leur tour, loin des regards indiscrets. Au total, disparaissent pendant l'été 1915 les deux tiers de la population arménienne sous souveraineté ottomane. Ajoutons à cela la disparition des Assyro-Chaldéens des provinces orientales, généralement associés à leurs voisins arméniens dans les déportations et les massacres. Dans une ultime phase, le gouvernement turc décide de liquider de toutes les manières possibles les 700 000 malheureux qui ont survécu aux marges de la mort et sont parqués dans les camps de Syrie. Voici le texte d'un télégramme transmis par le ministre à la direction des jeunes turcs de la préfecture d'Alep. Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence. Aussi criminelles que soient les mesures à prendre, il ne faut tenir compte ni de l'âge, ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Seules vont subsister les communautés arméniennes trop en vue des diplomates occidentaux, ainsi que les communautés assyro-chaldéennes de Mésopotamie qui sont, elles, trop éloignées. En Occident, les informations sur le génocide émeuvent l'opinion, mais le sultan se justifie en arguant de la nécessité de déplacer la population pour des raisons militaires. Le gouvernement allemand, allié de la Turquie, censure les informations sur le génocide. Et après la guerre, c'est en Allemagne que se réfugient les responsables du génocide, y compris Talat Pacha. Ce dernier est assassiné à Berlin le 16 mars 1921 par un jeune Arménien, Sogomon Tedirian, mais l'assassin sera acquitté par la justice allemande. Le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920, entre les alliés et le nouveau gouvernement de l'Empire ottoman, prévoit la mise en jugement des responsables du génocide malgré tout. Mais le sursaut nationaliste du général Mustafa Kemal bouscule ces bonnes résolutions. D'abord, favorable à ce que soient punis les responsables de la défaite et du génocide, Mustafa Kemal se ravise car il a besoin de ressouder la nation turque face aux Grecs et aux Occidentaux qui menacent sa souveraineté. Il décrète ainsi une amnistie générale le 31 mars 1923. À la vérité, c'est seulement dans les années 1980 que l'opinion publique occidentale a retrouvé le souvenir de ce génocide, à l'instigation de l'Église arménienne et des jeunes militants de la troisième génération, dont certains n'ont pas hésité à recourir à des attentats contre les intérêts turcs.
Galad, la Méridienne.